La plus rebelle des radios.
La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, ton train, polémique et ton fichier. C'est tout ton vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Grand moustache dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille Info.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
Bonsoir, il est 19h02, vous êtes bien sur Radio Canu et c'est évidemment l'heure du Canu Info du vendredi. Et on va commencer par vous parler de la mairie de Vaux-en-Velin et de Pierre Dussurgeix qui empêche la mise à l'abri pour la nuit d'enfants de moins de 5 ans.
Et ensuite, on vous parlera du syndicat Sud PTT Isère-Savoie qui a déposé un préavis de grève pour le 14 avril pour protester contre le non-paiement aux facteurs de la distribution des plis électoraux.
On passera à la rubrique nationale, il faut vous parler des tailleurs de pierre parisiens qui viennent en aide aux migrants.
On vous lira ensuite un texte qui s'intitule « Le 24 avril, pose ton jour ».
On vous parlera du passage à tabac au commissariat de Rennes.
Puis on ira du côté de Tours et on parlera d'Angelo Garand.
Et finalement, on reviendra avec notre super rubrique des vitrines brisées.
Et on passera à la rubrique internationale avec le président américain, le fameux Donald Trump, qui a promulgué une loi permettant aux États d'interdire le transfert d'argent public à toute clinique qui pratiquerait des IVG.
On vous parlera ensuite des homosexuels emprisonnés et tués en Tchétchénie.
Puis des suites du mouvement populaire en Guyane.
Pour finir par des féminicides en Argentine.
Et avant l'agenda.
Ville Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus...
Nous agissons avec smart. La volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous voyez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons...
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici...
Et vous, en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, en chantant résiste.
Et comme annoncé dans le fil d'info, on va commencer par vous parler du maire de Vaux-en-Velin, Pierre Dussurgeix, qui empêche la mise à l'abri pour la nuit d'enfants de moins de 5 ans. Alors, quand la municipalité socialiste de Vaux s'empare de la question des enfants sans toit, elle envoie la police municipale interdire l'accès à un gymnase à 4 enfants de moins de 5 ans et se refuse à leur trouver un logement d'urgence. Depuis le 10 mars, malgré les demandes du collectif Jamais sans toit, notamment, et des relances des autorités compétentes, à l'école Grand Clément de Vaux-en-Velin, les enfants sont toujours à la rue. Les demandes sont simples. Nous demandons de faire respecter le droit à l'hébergement et le Code de l'action sociale des familles, ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant, qui devrait leur assurer un logement. Devant l'absence de solution, le collectif Jamais sans toit de Grand Clément a décidé de mettre à l'abri les familles depuis le jeudi 6 avril au gymnase Paul Roux de 20h à 8h pour ne déranger ni les associations ni l'école utilisant le gymnase en journée. Le lundi 10 avril, à l'arrivée du collectif au gymnase, la police municipale a été appelée et mandatée par M. Dussurgeix, maire de Vaux-en-Velin, et a signifié au collectif Jamais sans toit, dès son arrivée, qu'elle ne les laisserait pas rentrer. Devant la protestation des habitantes et des habitants, des parents et des parentes et membres de l'école et à la demande de celle-ci et ceux-ci, la police a appelé des personnes élues à la mairie afin que celle-ci réponde aux questions du collectif, questions restées sans réponse depuis un mois. Quelques minutes après, Madame Daoum, élue en charge de l'éducation, et Monsieur Kamassi, porte-parole de la mairie, sont venus signifier que les directives de la mairie étaient de refuser l'accès au gymnase ou tout autre local municipal à ces familles. La mairie de Vaux-en-Velin ne fait pas appliquer la loi et laisse donc 4 enfants de moins de 5 ans dormir à la rue. La mairie de Vaux-en-Velin refuse de proposer une solution d'hébergement d'urgence à 2 familles. La mairie socialiste de Vaux-en-Velin n'applique pas les consignes d'Emmanuel Cosse, ministre du Logement, qui déclarait donc en novembre 2016 « Pour donner sens à la solidarité nationale, nous devons faire en sorte que toute personne en détresse se voit offrir une solution d'hébergement. » Ou alors, elle déclarait encore « Sans abri, mal logé, migrant, nous devons et nous pouvons offrir à chacune et chacun un accueil digne et humain. » La mairie de Vaux-en-Velin refuse d'utiliser son pouvoir d'ouvrir un établissement en cas d'urgence. À ce titre, Madame Daoum et Monsieur Kamassi ont clairement défini les cas d'urgence et 4 enfants dormant dehors n'en font pas partie. La lutte avec ces familles continue et le collectif Jamais sans toi de Grand Clément, mais aussi plein d'autres personnes, continueront toutes les actions qui leur semblent légitimes et qui permettront de mettre ces personnes à l'abri. Du coup, on rappelle qu'il y a toujours une forte lutte à Lyon, comme ailleurs, autour de ces questions de logement et des questions des immigrations. Sans transition, du coup, on va maintenant vous parler des luttes à la poste. Ça fait effectivement longtemps qu'on ne vous a pas parlé de lutte à la poste. On vous en parle régulièrement dans Scanu Info du vendredi. Et là, c'est le syndicat Sud PTT Isère-Savoie qui a déposé un préavis de grève ce 14 avril pour protester contre le non-paiement aux facteurs de la distribution des plis électoraux. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que traditionnellement, à chaque élection, les postiers en charge de la distribution dans toutes les boîtes aux lettres des plis électoraux comportant programme et bulletin de vote de chacun des candidats étaient compensés financièrement en fonction du nombre et du poids des plis à distribuer. Mais là, la direction de la Poste semble ne pas vouloir renouveler cette compensation pour les prochaines élections présidentielles, au motif que cette distribution viendrait compenser une baisse du trafic postal. Alors évidemment, le syndicat Sud PTT Isère-Savoie conteste et dit « Les plis électoraux sont un travail supplémentaire non prévu dans le calcul de la charge de travail et vient donc de déposer un préavis de grève illimité. » On va vous lire le communiqué de presse de Sud PTT Isère-Savoie. Donc qu'est-ce qu'il dit ce communiqué de presse? Il dit donc « Préavis de grève en Isère et Savoie sur la distribution des plis électoraux » et il précise qu'un milliard... Que 60 millions pour la distribution des plis électoraux, c'est ce que va toucher la Poste. Donc les dirigeants de la Poste se gavent sur le dos des postiers et des contribuables. Depuis plusieurs années, la distribution des plis électoraux n'est plus automatiquement payée. Donc comme je vous l'ai dit, traditionnellement, les postières et les postiers étaient compensés en fonction du nombre, du poids des plis à distribuer. Et à ce jour, elle s'apprête à ne rien donner aux agents. Alors que, effectivement, la Poste touche plus de 60 millions d'euros pour ce contrat. La Poste va dire du coup à ses agents que la distribution des plis électoraux fera partie de la charge normale des facteurs et sera compensée encore une fois par leur baisse de trafic. Pourtant déjà pondérée par la sécabilité, la double présentation, la distribution des catalogues, les nouvelles réorganisations. Que les choses soient claires, les plis électoraux sont un travail supplémentaire non prévu dans le calcul de la charge de travail. La Poste modélise l'activité des facteurs. Elle fait une moyenne de notre charge de travail sur l'année, en toute illégalité. Cette moyenne correspond à notre temps de travail normal. Or, les plis électoraux ne sont pas comptés dans cette moyenne. Donc, tout travail supplémentaire doit être compensé. Cette compensation doit se faire au forfait. La Poste communique sur une distante baisse de trafic, pourtant celle-ci est intégrée au calcul de notre charge de travail. La Poste s'apprête à enfreindre la loi, tout d'abord en organisant une gigantesque fraude au temps de travail pour ne rien donner aux facteurs, mais aussi en retenant du courrier pour que les plis électoraux soient distribués à la place du courrier normal, faisant fi de ses obligations en tant qu'opérateur public. Le résultat de cet argent public qui coule à flot sur les dirigeants de la Poste, c'est 20 000 suppressions d'emplois en 3 ans, une explosion de la souffrance au travail, une qualité de service en chute libre, des fermetures de bureaux en rafale, la destruction du service public postal. Qui va arrêter les casseurs qui sont à la tête de l'entreprise publique ? Tout travail mérite salaire, nos dirigeants grassement payés semblent l'oublier quand il s'agit du travail de ceux qui font vivre la Poste. Donc en soutien évidemment à Sud PTT Isère-Savoie et peut-être l'étendue de cette grève de manière nationale.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries, là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info.
nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et maintenant, direction Paris, où des tailleurs de pierre se mobilisent contre les cailloux de la honte. Qu'est-ce que c'est ces cailloux ? Ce sont de gros blocs de calcaire qui sont installés sous un pont, porte de la chapelle, pour empêcher les migrants d'y trouver un refuge. On avait des pics à pigeons, maintenant on a des pics à migrants. David, membre de Cœur de Pierre et Solidaire, ne mâche pas ses mots pour désigner les gros blocs de pierre installés par la mairie sous un pont, porte de la chapelle, dans le nord de Paris. Depuis février dernier, ce collectif de tailleurs de pierre est venu 3 fois pour graver des messages de paix et déplacer ces énormes cailloux qui empêchent les exilés de trouver refuge à l'abri de la pluie. Au début, la mairie disait que ces pierres étaient des déchets, puis elles sont devenues du mobilier urbain. Tout ça pour pouvoir nous accuser de dégradation, dit un membre du collectif. Les autorités assurent qu'elles ont mis les cailloux sous ce pont, car il va être démoli et elles ne veulent pas que des gens soient en dessous. Voilà, il y a bien. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait eu aussi à la Guillotière des gros grillages. Enfin voilà, il y a toujours des bonnes excuses pour mettre des gros cailloux et du mobilier urbain un peu de partout. Et voilà, il y a la mairie qui s'était défendue dans un communiqué de presse d'avoir installé un dispositif anti-migrants. Mais du coup, voilà, pour les tailleurs de pierre continuent à faire ces actions en dessous de ce pont-là. Du coup, là, ils en étaient le 25 mars à leur 3e opération. Puis ils ont été stoppés par les forces de l'ordre. Mais suite à ça, l'action a été médiatisée et voilà, ils continuent. Donc, si vous voulez les rejoindre ou avoir plus d'informations, il y a un groupe Facebook, Cœur de Pierre et Solidaire.
Canu Info, vendredi.
Tu vois la grosse crotte avec du caviar. Du caviar, des crottes de.
La président.
Rubrique présidentielle.
Et voilà, on voulait vous lire un petit texte qui donne une bonne idée, poser son lundi 24 avril. Mais du coup, pourquoi poser son lundi 24 avril ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le lendemain du 23 avril 2017, soit le premier tour de l'élection présidentielle. Que l'on décide de voter ou non, le 24 avril risque d'être un jour particulièrement pénible. Voici donc plein de raisons pour poser dès maintenant cette journée.
Première raison. Vous pouvez vous lever plus tard, aux joies, et esquiver les commentaires des matinales d'infos sur ce qui aurait dû dire être fait par tel ou tel candidat ou candidate. S'il y a bien un truc plus chiant que les élections, c'est quand même le débriefing des élections par messieurs, dames, les expertes.
Vous pouvez esquiver le même type de débriefing, mais encore plus pénible, celui avec vos collègues. Les collègues qui ne parlent souvent de politique qu'à proximité d'un scrutin. Avec un peu de chance, ils et elles oublieront même de vous demander si vous avez bien voté. Et vous pourrez de toute façon esquiver de répondre en racontant les choses palpitantes que vous aurez faites ce lundi.
S'il y a eu un rassemblement spontané près de chez vous le 23 au soir et que c'est parti en vrille et que vous avez fini blessé, choqué, contrôlé ou en garde à vue, vous n'aurez pas à expliquer votre état physique et moral dès le lundi matin à vos collègues.
Si un nouvel appel à se rassembler ce lundi parce que le deuxième tour craindra un max et que les organisations syndicales et de lutte ne voudront même pas attendre le deuxième tour pour entamer le fameux troisième tour social ou dénoncer l'extrême droite, vous serez prêts, prêtes et dispo. Si ce rassemblement est prévu plus tard dans la semaine, vous pourrez participer à tracter ou coller pour mobiliser ce lundi.
Si vous ne votez pas, vous pouvez donc envisager un petit week-end chez des amis loin de chez vous qui se prolonge jusqu'au mardi. Voir la République se dissoudre dans son propre vomi, c'est toujours plus agréable à très longue distance et au grand air.
Si vous avez pour la plupart votre lundi de Pâques férié, le lundi 17, soit la semaine précédente, ça fait 2 semaines de 4 jours à la suite. C'est cool. Un bon échauffement pour les 2 premières semaines de mai qui suivent. De quoi se donner envie de militer définitivement pour la semaine de 4 jours, les 32 heures, en attendant l'abolition complète du travail.
Mais aussi parce que le dimanche soir, c'est toujours déprimant, et encore plus le soir des élections.
Et puis surtout, c'est parce que c'est pas le lundi matin que vous détestez réellement pas, c'est le capitalisme et c'est le travail. Si, essayez de pas bosser le lundi matin, vous verrez que c'est un moment très agréable.
Et puis aussi parce que vous allez pouvoir prendre un vrai bon petit déjeuner. Celui avec plein de trucs qu'on prend jamais le temps de se préparer.
Essayez de prendre un moment à partager avec celles et ceux que vous avez du mal à voir. Celles et ceux qui, justement, n'ont pas à prendre leur lundi pour différentes raisons. Celles et ceux qui, donc, au sein de votre entourage, se retrouvent parfois exclus et isolés.
À lundi. À lundi.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière.
Canu Info.
La police qui tue, la police assassine. Qu'est-ce que des drogues, nous sommes la police. La police mutine.
Violence policière.
Et du coup, on va passer à des choses moins joyeuses, puisqu'on va vous parler d'un passage à tabac au commissariat de Reims. Le 2 mars, Roméo est passé à tabac alors qu'il est placé en garde à vue dans un commissariat de Reims. Une caméra de surveillance filme la scène. Ce mardi 11 avril, Francky, policier, comparaissait pour violence volontaire. Alors on est au tribunal de Reims et à la barre, Francky, 44 ans, répond aux questions du juge. Il est mis en examen pour violence volontaire par dépositaire de la force publique dans un local de l'administration, ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. Les faits donc remontent à la nuit du 2 mars. Une brigade de la BAC interpelle 4 jeunes. Ils fêtent la sortie de prison de Roméo en pétant des rétros de bagnole. À la barre, Francky, les cheveux ras, une paire de lunettes noires à grosses montures sur le nez, se tient droit dans son costume noir. Il raconte l'interpellation, puis le trajet en voiture jusqu'au commissariat. Il menace les fonctionnaires de la BAC, il donne les noms de famille et des adresses de policiers. C'est ça, c'est ce que Francky y dit. Au commissariat, la situation dégénère. Roméo est particulièrement agité. Les insultes fusent. Francky décrit au tribunal un jeune homme incontrôlable. La scène se déroule sous le regard, par contre, d'une caméra de surveillance. Les images diffusées à l'audience sont accablantes pour le policier. Dans une première séquence, on peut les voir tenter de maîtriser le jeune homme. Il le plaque au sol, le menotte, avant de le traîner en salle de fouille. La victime disparaît du champ de la caméra. Lorsque Roméo réapparaît à l'image, il sort de la salle de fouille en caleçon et en pull. Maître Ludo, l'avocat du plaignant, est scandalisé. Il estime que son client est porté comme un vulgaire sac à patates. Au début, dans le local de fouille, il se débat. Et au moment de le faire s'asseoir, il bouge sa tête, crache sur le collègue et tente de le mordre. Il nous insultait aussi, assure le fonctionnaire pour justifier la suite. Seconde vidéo, on y voit 3 policiers jeter brutalement le jeune homme au sol. Dans la cellule numéro 4, il se relève et revient en contact des policiers. Un fonctionnaire le pousse à nouveau et c'est à ce moment-là que Francky, du coup le policier, surgit dans le champ de la caméra. Il assène une violente série de coups de poing au jeune homme. Je porte des Atemis. Alors les Atemis, qu'est-ce que c'est? C'est des coups de poing insérés des arts inspirés des arts martiaux japonais. C'est violent, mais c'est la technique que l'on apprend en formation. Pour Francky, donc, ses gestes sont défensifs. À la barre, il explique qu'il ne parvenait pas à fermer la porte de la cellule. Un instant, il tourne le dos à Roméo. Un collègue lui dit « Attention », pensant que Roméo s'apprête à le charger, le policier aurait alors paniqué. Maître Menkoussa, l'avocat du policier, fera de cet argument l'axe principal de sa défense. Il demandera même une reconstitution des événements, contestant l'analyse des images de l'IGPN. « Nous avons un élément objectif avec la vidéo et l'angle de la caméra a été choisi par la police », donne le procureur. La demande de complément d'information est rejetée. Contacté par le site d'information Street Press, la veille de l'audience, Maître Ludo, l'avocat de la victime, dénonce l'ensemble de la procédure. Selon lui, des violences ont eu lieu avant et après ce que les images peuvent montrer. Les violents coups de poing portés par Francky ne serviraient qu'à expliquer devant les autorités les ecchymoses du jeune homme et à couvrir d'autres policiers. Le policier frappe délibérément le gardé à vue. Le parquet a été très habile en renvoyant un seul policier en correctionnel. Et de s'interroger sur le rôle du médecin en charge de l'examen médical pendant la garde à vue. Le toubib a autorisé sa prolongation alors qu'à sa sortie, un confrère accorde à Roméo une ITT supérieure à 8 jours. L'avocat s'agace. Le médecin ne veut pas se mettre à mal avec les policiers pour garder les visites, mais il avait le devoir d'alerter le parquet. Idem pour le substitut du procureur, qui a été alerté de la garde à vue, dont il va autoriser la prolongation après une visioconférence où l'on voit clairement Roméo couvert de bleu. Un échange qui se déroule en présence des policiers. Pour son avocat, le jeune homme ne pouvait pas à ce moment s'exprimer librement. On a ici toute une chaîne d'incompétence, s'insurge Maître Ludo, du coup Maître du plaignant. Dans la salle d'audience, un parterre de fonctionnaires en civil. Le fameux esprit de corps de la police est plus que palpable. Ils sont venus témoigner leur soutien à leurs collègues, mais aussi et surtout, en dépit des images, manifester leur indignation. Le 4 avril, juste après la première audience, finalement reportée, le syndicat unité SGP Police diffuse un tract intitulé « Je suis Francky ». En gros, il est écrit dans ce tract « Les policiers nationaux apporteront leur soutien sans réserve à leur collègue Francky, injustement mis en cause lors de l'exercice de ses fonctions. » Et donc, ce tract de conclure, la stigmatisation des policiers, ça suffit. Une campagne qui a quand même agacé les magistrats en charge du dossier, au-delà du ridicule de tout ce que ça produit. En préambule de ces réquisitions, le procureur de la République, Maître Bourrette, a tenu à rappeler que ce procès n'est pas le procès de la police, ce n'est pas davantage le dossier des violences policières. Nous, on trouve que ça l'est un peu ce dossier-là des violences policières communes, quotidiennes, dont on entend souvent parler, ou peut-être pas assez. Et le procureur requiert 3 mois de prison avec sursis et 3 mois d'interdiction d'exercer ses fonctions. Pour Roméo, jugé le même jour, pour violence sans incapacité et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, il a requis 1 an de prison ferme. Le rendu du libéré est le 16 mai. Mais on est quand même un peu à rappeler ce deux poids, deux mesures, et que c'est quand même assez hallucinant quand, même avec toutes les preuves vidéo dont on nous affuble que ça va servir à donner une meilleure justice et qu'on utilise comme argument pour accabler les villes de vidéosurveillance, de caméras, ce sont encore finalement les policiers qui sortent gagnants de violences qui sont complètement inadmissibles.
Et puis tu rappelais à l'instant le rôle des syndicats de police. On rajoute que la CFDT cette semaine a sorti un communiqué, la CFDT police a sorti un communiqué demandant l'interdiction ou le retrait des kiosques du dernier numéro de CQFD qui a l'outrecuidance de parler de violences policières et notamment du fait que les policiers puissent tuer des gens en une de son journal. Donc on soutient CQFD et puis on va apporter tout de suite un regard sur le fait que oui, la police tue. Alors mercredi 5 avril, Angelo Garand a été enterré dans le cimetière de Vineuil, c'est dans le Loir-et-Cher. Une semaine plus tôt, le 30 mars, une équipe de gendarmes et d'hommes du GIGN a fait irruption au domicile de ses parents, à Sœur, et l'a abattu sans sommation. Alors pour parler de ce drame, on va s'appuyer à la fois sur des éléments d'un reportage de camarades de Tours qui se sont rendus sur place et des propos postés par la sœur d'Angelo quelques jours après les faits sur YouTube. Elle réagit à une vidéo du JT local dans laquelle le procureur apparaît et tient des propos qu'on pourrait qualifier d'un peu bizarres. La pièce où Angelo a été abattu n'a pas été scellée. Sur les lattes du sommier posées contre le mur, sur le sac recyclable accroché à la poutre, sur le vélo d'enfant renversé au sol, on voit encore des traces de sang. Dans les poutres et le plafond, les balles tirées par les gendarmes ont laissé des marques. Quand ils abattent un homme, les pandores ne font pas de ménage. Angelo s'est réfugié dans cette petite remise quand il a vu les Bleus débarquer. Il ne voulait pas retourner à la prison de Vivonne, où il purgeait une condamnation pour vol. Il en était ressorti à l'occasion d'une permission obtenue au mois de septembre dernier. Les autres membres de la famille étaient réunis ce jour-là pour une grillade. Ils ont été jetés au sol, entravés avec des liens en plastique, braqués par des mitraillettes, comme une prise d'assaut. Les gendarmes ont commencé à fouiller la maison et les différentes caravanes installées dans la cour, cassant meubles et portes au passage. Mais ils ont fait chou blanc, jusqu'à ce qu'un bruit sourd les attire vers la pièce où Angelo s'était caché. La sœur d'Angelo raconte et revient sur les incohérences du discours du procureur.
Ils sont arrivés, ils ont interpellé parents, mon frère. Ma belle-sœur, j'étais comme des chiens, mes parents handicapés, malades, sous oxygène, ma mère greffée, tout horrible. Il s'est juste caché, il n'a pas voulu... C'est pas vrai, ça. Hein. Il n'a jamais voulu se sauver. Il s'est juste caché dans un... comme un rat, en fait. Il était fait comme un rat, il s'est caché dans un... Il attendait simplement dans le petit coin.
Une grange.
Une grange, on appelle ça une grange. Je vous dis tout, c'est dans le noir. Oui, c'est vrai, là, par contre, vous n'avez pas menti. C'est vrai que c'est dans le noir. Ensuite, ce que vous dites, c'est dans le noir. Mais vous neutralisez un individu dans le noir. Bah, dis donc, vous êtes fort. Ils avaient, pourtant, ils étaient cagoulés, les gens, le GIGN. Angelo, il n'avait pas à voir le GIGN. Vos hommes, c'est des commandos. Déjà, il y a un problème, ceux qui traitent ça. Et on n'envoie pas des commandos chez n'importe qui. Pas pour des individus comme lui, je suis désolée, non.
Alors le drame s'est joué en 2 secondes. 3 gendarmes sont entrés dans la pièce, puis, immédiatement, 4 ou 5 détonations retentit. Ensuite, un long silence. Pendant plusieurs heures, la famille n'a pas su ce qui s'était passé, dans quel état étaient leurs frères, leurs fils. Ils ont été emmenés à la gendarmerie, où ils étaient auditionnés. On ne leur a pas demandé comment s'était déroulé l'assaut de la ferme, ils n'ont pas été amenés à témoigner sur les circonstances ayant conduit au tir, et le discours officiel est à leurs yeux très éloigné de ce qui s'est passé.
Je viens de regarder la vidéo là qui a été diffusée à midi, je viens juste de la voir parce que entendre des conneries pareilles, c'est non. Ça, on ne laissera pas faire ça. Par contre, on ne la fera pas à votre manière, monsieur le procureur. Déjà, au début de la vidéo, vous dites, monsieur le procureur, nous avons cherché à le neutraliser. Vous avez vraiment écouté le récit de ma famille. Cherché à le neutraliser, ils étaient prêts à manger juste de la viande, ensemble. Et un évadé. Ah, c'est pas un évadé. J'appelle pas ça un évadé, j'appelle ça un déserteur. Il s'est évadé. Un évadé, pour moi, c'est quelqu'un qui déploie des moyens. On y a donné la permission. Vous dites que c'est un individu dangereux. C'est vous qui lui avez donné la permission. S'il était si dangereux, pourquoi vous l'avez laissé sortir? Pourquoi tout ça?
Alors, le 30 mars, ce n'est qu'en début de soirée, après le recueil des dépositions de la famille, que le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevalier, a annoncé à celle-ci qu'Angelo était mort. Et puis, au lieu de présenter ses condoléances ou d'apporter un début d'éclaircissement sur les circonstances ayant entraîné la mort d'Angelo, il a expliqué qu'il craignait des émeutes. Dans la foulée d'annonce de la mort d'Angelo, le proc et le préfet ont déployé d'importants renforts de gendarmes mobiles dans la zone. Le lendemain, la famille Garand a pu récupérer le corps, qu'elle a dû faire revenir à ses frais, de Tours où une autopsie avait été pratiquée. La famille a ainsi pu rentrer chez elle après que les gendarmes se soient organisé une reconstitution à huis clos, sans que les proches d'Angelo, présents au moment du drame, aient été invités à y participer. Depuis, ils n'ont reçu aucune nouvelle du procureur et c'est dans la presse qu'ils ont appris qu'une information judiciaire avait été ouverte. Malgré le choc, aucune aide psychologique ne leur a été proposée. Pour l'État, ils ne sont pas des victimes, mais de possibles complices. Ils ont pourtant de nombreuses questions sans réponse. Pourquoi faire intervenir le GIGN alors qu'Angelo n'avait pas résisté lors de la présente interpellation et que les rapports de la famille avec les gendarmes locaux n'étaient pas hostiles? Pourquoi les gendarmes sont-ils rentrés dans la pièce où se cachait Angelo, mitraillette en main, au lieu d'attendre qu'il sorte, sachant que la pièce ne compte qu'une issue? Ces questions-là, et puis tant d'autres.
Oui, pourquoi vous avez eu votre reconstitution, nous on l'a pas eu? Pourquoi on n'a pas de nouvelles, nous? On apprend quoi? Que ça a été... Il a été touché de 3 balles, apparemment. On apprend ça où? Par les pompes funèbres. C'est aux pompes funèbres de nous donner... Est-ce que c'est à nous de...
Les bandes, comment ça se fait?
Si c'est vraiment une bavure, c'est à vous de venir s'excuser, de... Je sais pas, c'est pas normal. Ma famille, même pas une aide. Même pas une aide d'habitude, en temps normal. On va mettre une cellule psychologique. Mais ça marchera pas comme vous l'espérez, à mettre vos moyens en place en espérant les émeutes, comme vous avez fait la dernière fois. C'est de la manipulation. La dernière fois, c'est comme ça que ça s'est passé. Et final, ça a été quoi? Les gens qui ont fait ça, ils ont été en prison parce que juste, ils ont voulu que la vérité soit mise sous le tapis, c'est tout.
Ils sont pas capables
à force de faire des trucs comme ça, bah, vous voyez, on va être plus malin. Tous les gens ont été tués par les gendarmes comme ça. Qu'on prend pour n'importe qui, que ce soit des manouches, des gitans, ou même seulement des arabes, les petits jeunes là, au transfo, il y a plein de trucs comme ça qui sont pas normales. Et tout ça passe toujours. Ça passera pas et on fera ce qu'il faudra, mais intelligemment. Cette fois-ci, vous nous aurez pas. S'il faut, je ferai comme les autres ils font, on fera des marches, on fera des groupes de soutien. Mais voyez tous la vérité en face. C'est pas une bavure policière, c'est rien d'autre qu'une exécution. C'est juste ça. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et là, faut que ça l'arrête maintenant. Il faut que ça l'arrête.
La famille d'Angelo réclame la vérité et la justice. Une page Facebook Justice pour Angelo a été créée et un rassemblement va être organisé le 22 avril à Blois. Aurélie Garand évoque la possibilité d'un grand rassemblement à Paris qui réunirait toutes les victimes de cette violence d'État. Une telle marche a été organisée le 19 mars dernier, réunissant des milliers de personnes venues de toute la France. Moins de 2 semaines plus tard, flics et gendarmes avaient déjà fait 2 nouvelles victimes. Liu Xiaoyo, 56 ans, mort à Paris, et Angelo Garand, 37 ans, mort à Sœur.
Bah, il y en a certains et certaines qui, pour le coup, ont pas trop de mal avec la police et qu'on va pas plaindre trop. C'est les militants et les militantes FN qui, cette semaine, ont déjà bien pris dans leur gueule et c'est peut-être pas plus mal. Il y a notamment à Valence des dégradations contre la permanence du FN. Donc c'est dans la nuit de lundi à mardi que le rideau métallique a été forcé et un extincteur a été balancé dans la vide pour la péter. Et du coup, ils ont balancé dans tout le local... Ils ont balancé dans toutes les cales plein d'encre noire, notamment sur les tracts qui devaient être distribués le matin même. Et la militante, la dame du Front National dit « On devait le faire ce matin, c'est quand même pas de chance. » Et elle se plaint, elle dit que c'est des méthodes de fachos.
Et alors, en Loire-Atlantique, les deux nouvelles permanentes du Front National ont été vendisées par le GUD. Le GUD, c'est le groupe unifié de déménageurs. Alors que l'ancienne permanence du Front National à Nantes, située quai de Versailles, a fermé l'été dernier, suite notamment à de nombreuses décorations et expressions populaires, le Front National a jugé bon d'en réimplanter une en Loire-Atlantique en ouvrant deux permanences, à Varades et à Nantes. Et des adhérents du FN ont retrouvé leur permanence dans un sale état à Varades. Elle a été vandalisée dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Le ou les auteurs ont fracturé la porte d'entrée de ce local qui devait être inauguré le 29 avril prochain. Il y a eu des jets de peinture, des bruits de matériel et des bureaux ont été retournés, selon la compagnie de gendarmerie d'Ancenis à qui l'enquête a été confiée. Des canalisations ont été bouchées alors que les robinets d'eau coulaient à flot. Le but était sûrement de rendre les lieux inutilisables, explique Alain Vélo, le secrétaire départemental du FN, qui incrimine des minorités anarchistes et dénonce cette violence de militants d'ultra-gauche dans un communiqué. Celle de Nantes a aussi fait les frais du GUD, hein, toujours le groupe unifié des déménageurs. « Ne trouvant pas la décoration à notre goût, écrivent-ils, nous avons jugé sympathique de repeindre les murs, nettoyer le sol et arranger certains tableaux de mauvais goût. Les canapés ne passant pas par la porte, nous avons malheureusement dû briser carreaux et fenêtres. Nous espérons que les permanences de FN de Varades ne tiendront pas rigueur de la vivacité du déménagement. Et, bien qu'écologistes, nous n'avons pas refermé les robinets à leur place, on n'apprend que par l'erreur. Ce premier déménagement est offert, pas de facture de notre part, les suivrons coûteront cher. »
Et c'est la permanence du QG de Marine Le Pen qui, à Paris, a bien fini partir en fumée. Un groupe qui s'appelle Comité contre la xénophobie, combattre la xénophobie, pardon, a essayé de faire partir un départ de feu dans le QG de Marine Le Pen. Ils et elles n'ont malheureusement réussi qu'à dégrader une porte et un paillasson, mais déjà au nez à la barbe du FN, c'est déjà pas mal.
Et puis à Denain, dans le Nord, il y a aussi eu des problèmes pour le Front National. Alors, attaque délibérée à l'encontre du candidat frontiste aux législatives ou vandalisme ordinaire. Toujours est-il que la vitrine du local de campagne de Sébastien Chenuche a été presque totalement brisée jeudi soir alors que le volet était baissé. C'est le locataire du dessus en fait qui a prévenu parce qu'il avait entendu du bruit. Alors le candidat précise, on va porter plainte, ça fait 3 mois que l'on est ici, on n'a jamais eu de problème. Dans un communiqué, Sébastien Chenuche observe que le local du voisin, du parti, que celui du Parti communiste n'a pas été endommagé et il souligne qu'il semble donc que ce saccage soit lié de nature politique puisque seul le local a été visé dans la rue.
Et alors, petit ou petite colleur ou colleuse du FN, si tu comptais ce soir aller coller des affiches pour le Front National, fais attention parce qu'à Montpellier, qu'est-ce qui se passe? Deux colleurs du Front National sont allés coller dans la nuit de mercredi. Sauf qu'au moment même où ils étaient en train de coller, il y a une équipe de 6 personnes qui sont arrivées, qui les ont menacés de battes de baseball. Les deux colleurs sont partis en courant, mais les personnes avec les battes de baseball, voulant utiliser quand même leurs battes de baseball, pas pour rien, ont déboîté leur voiture.
Et puis il n'y a pas qu'être militant du Front National qui est dangereux, mais aussi être militant républicain. Ainsi, la vitrine du Parti des Républicains située à Castres a été vandalisée dans la nuit du 12 au 13 avril. Un ou plusieurs individus ont ainsi jeté un pavé dans la vitrine. Sous l'impact, elle n'a malheureusement pas, explosé, mais s'est fissurée de toutes parts. C'est au petit matin que des militants ont constaté les dégâts et vu le pavé au pied de la vitrine. Bernard Carayon, le président départemental des Républicains Tarnais, a dénoncé cet acte de vandalisme. Il a déclaré « Cela donne encore plus d'énergie à nos militants qui travaillent dans cette permanence et qui sont attachés à l'honnêteté de François Fillon ». Et il a rajouté une plainte contre X a été déposée au commissariat de Castres.
Et alors, c'est raté pour l'inauguration de la permanence de la candidate aux législatives de la 17e circonscription de Paris. Parce que qu'est-ce qui s'est passé lundi matin quand ils sont arrivés pour inaugurer la permanence? Et bien, pas de bol, un gros tag était affiché sur le rideau métallique « Fillon rend l'argent, boycottons 2017 ».
Et des fois, il n'y a même pas besoin qu'il y ait le Front National ou les Républicains dans le coin pour qu'on s'amuse. Ainsi, à Cray, l'appel à la fête et au carnaval a été lancé par la population et par des militants, ainsi que le monde associatif et des intermittents du spectacle. Et apparemment, il a été entendu. Ils étaient quelques centaines à défiler déguisés, samedi 8 avril, dans la cité crestoise, revendiquant haut et fort sur un air de fête le retour du carnaval à Crest, qui a été arrêté il y a 8 ans. Les organisateurs avaient décidé de faire du bruit sur le thème du réveil aux monstres. Et si la fête a bien eu lieu, quelques attitudes ont encore fâché, et à nouveau c'est un républicain malheureusement, le maire républicain de la ville. Plutôt que d'animer la ville, certains professionnels de l'agitation l'ont perturbé, certains commerçants ont même dû fermer boutique, les pauvres, a déclaré Hervé Mariton. Certains murs de la ville ont été tagués, des caméras de vidéosurveillance ont été dégradées. Cela va coûter de l'argent, nous avons naturellement déposé plainte, dit-il. Cette pression par le nombre et le désordre n'est pas drôle, et elle n'est surtout pas d'ordre démocratique, a-t-il ajouté.
Mais même l'école en prend pour son grade. Et oui, en effet, à Poitiers, deux élèves de 8 et 9 ans, dans la nuit de samedi à dimanche, sont rentrés dans l'école du quartier et ont balancé de la bouffe plein la salle des maîtres et cassé le tableau et compagnie. Ils ont déclaré aux policiers qu'ils voulaient détruire les devoirs.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et voilà. Alors, dans la rubrique internationale, pour commencer, on va parler de Trump. Ça y est, Trump fait des frasques. Alors, là, il...
Ça y est.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait là ? Il vient de couper les vives des cliniques qui pratiquent l'avortement. Donc, le président américain a promulgué une loi abrogeant une directive de l'ère Obama destinée à sanctuariser les financements publics des cliniques du planning familial. Le Congrès, à majorité républicaine, avait déjà abrogé la directive 2 semaines plus tôt, déclenchant la colère des démocrates et de nombreuses associations de défense de l'avortement. La Chambre des représentants avait approuvé le texte en février. Aux États-Unis, les fonds publics ne peuvent permettre de subventionner les avortements, mais les cliniques comme celle du réseau Planned Parenthood, dont beaucoup pratiquent des interruptions volontaires de grossesse, peuvent recevoir des fonds en remboursement d'autres soins de santé, comme des dépistages ou la contraception. Voilà, donc c'est un nouvel épisode de la guerre menée contre les femmes. Et cette nouvelle mesure de l'administration Trump permet ainsi aux États d'interdire le transfert d'argent public à toute clinique qui pratiquerait des avortements. Pour l'opposition démocrate, il s'agit d'un nouvel épisode de la guerre menée par les républicains contre les femmes. À la fin janvier, Trump avait signé un décret déjà rétablissant une loi bloquant le financement d'ONG internationales soutenant l'avortement. Et au début du mois d'avril, les États-Unis ont également annoncé qu'ils cessaient de financer le fonds de l'ONU pour la population. Ce fonds est destiné au planning familial et aux soins apportés aux mères et à leurs enfants dans plus de 150 pays. Le département d'État américain avait justifié sa décision par le fait que le fonds soutient ou participe à la gestion d'un programme d'avortement coercitif et de stérilisation involontaire.
Eh bien, sans transition, on va en Tchétchénie. Ça date un peu, ça date du 1er avril, mais on ne vous en a pas parlé au Canu Info cette semaine, parce que j'ai vérifié. Et donc, le 1er avril, le journal Novaya Gazeta, dernier bastion de l'opposition médiatique en Russie, a publié une enquête révélant l'arrestation d'homosexuels et leur détention de façon irrégulière. Il s'agit d'une centaine d'hommes âgés de 16 à 50 ans. Non loin de Grozny, la capitale tchétchène. Il est également révélé dans cette enquête la mort de 3 d'entre eux, un en prison et les 2 autres par leur famille après avoir été dénoncés. Le journal indépendant compte parmi ses actionnaires le milliardaire mais opposant à Vladimir Poutine, qui s'appelle Alexandre Lebedev, et Elena Milashina, qui est l'auteur donc des 2 articles et qui est spécialisée dans l'investigation autour des droits de l'homme. Elle prolonge en Tchétchénie le travail de son ancienne collègue Anna Kwiatkowska, bon, désolé pour la prononciation, qui a été assassinée le 7 octobre 2006 après avoir déjà été arrêtée, enlevée, empoisonnée, j'en passe, et comme 5 autres journalistes de ce même journal depuis 2000. Concernant ces révélations, les autorités ont tout de suite parlé de ragots, de calomnies, voire de poissons d'avril, puisque cet article sortait le 1er avril. En effet, le chef de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui est ouvertement soutenu par Poutine, a assuré qu'il s'agissait de mensonges, tout simplement parce que, je le cite, « aucun Tchétchène n'est homosexuel ». Et voyons. Il a ajouté que de toute façon, si c'était le cas, il devait être tué. Et dans la même veine, la responsable des droits de l'homme en Tchétchénie, tenez-vous bien, a elle-même déclaré que la justice serait clémente avec les familles qui tuent l'un d'entre eux à cause de son homosexualité. Donc voilà un peu le délire en Tchétchénie. Donc 3 jours plus tard, donc le 4 avril, Novaya Gazeta publie un nouvel article, donc toujours de la même journaliste, qui rassemble là pour le coup des témoignages étayés de photographies de plusieurs homosexuels, corroborant donc la première enquête qui est sortie le 1er avril. Il s'avère donc, on découvre que les homosexuels sont détenus dans 5 prisons autrefois utilisées par les troupes russes. Ils y sont pas seuls, puisqu'ils ont aussi incarcéré des islamistes arrêtés lorsqu'ils rejoignaient apparemment Daesh en Syrie, ainsi que des consommateurs de stupéfiants, parce que l'usage des drogues est sévèrement réprimé en Tchétchénie. La journaliste rapporte qu'ils savent que depuis la fin du mois de février, plusieurs centaines d'hommes homosexuels ont donc été arrêtés, torturés, incarcérés par les forces de l'ordre tchétchène. Ils ont été frappés, électrocutés et humiliés. Depuis la mise en place d'une ligne téléphonique d'urgence, 5 à 7 témoignages sont reçus par jour. Une 50aine d'homosexuels ont pu sortir de prison, mais les autres sont toujours détenus dans l'illégalité la plus totale. Le déclencheur de cette répression, ça a été en février, un homme qui a été interpellé sous l'emprise de stupéfiants. Et comme les policiers tchétchènes fouillent systématiquement les téléphones portables des individus qu'ils appréhendent, ils ont trouvé dans celui de l'homme arrêté des photos et des vidéos prouvant qu'il faisait partie de la communauté homosexuelle, ainsi que le contact de nombreux membres de cette communauté. C'est donc à ce moment-là que commence la première vague d'arrestations et de répression brutale, donc en février. Et la deuxième a eu lieu début mars, à la suite de la proposition d'un activiste LGBT d'organiser une gay pride dans plusieurs villes de la Tchétchénie. La réaction populaire a été très agressive, les autorités en ont donc eu connaissance et ont procédé à la deuxième vague d'arrestations qui ont placé donc ces centaines d'hommes en détention. Donc la Tchétchénie, c'est une république constitutive de la Russie et elle est théoriquement régie par la loi russe. Mais la situation des personnes LGBT en Tchétchénie, elle est a priori encore un peu plus difficile que dans le reste de la Russie, puisque Ramzan Kadyrov, là, dont je vous ai parlé, qui dit qu'il faut tuer tous les homosexuels, applique lui-même ses propres lois, en marge aussi de la loi russe. Sur le papier, la constitution russe, elle protège chaque citoyen et citoyenne, quel que soit ce qui le caractérise à la naissance. Et donc juridiquement, l'homosexualité est a priori légale en Russie. Même si en réalité, il est très dangereux d'être gay en Russie, comme en Tchétchénie, comme on vient de le voir. Le seul échappatoire donc, pour ces hommes, c'est de fuir le pays. Les seuls rescapés, dont le magazine gay qui s'appelle Têtu, a relayé les témoignages, se sont réfugiés ailleurs. Les associations LGBT ont donc lancé un numéro d'urgence et aident les homosexuels de Tchétchénie à fuir ailleurs. Tous les faits dont on vient de parler, ils ont été confirmés par l'ONG Human Rights Watch dans un communiqué. Ils disent qu'ils ont de multiples sources indépendantes les unes des autres sur le terrain et qu'ils disent toutes la même chose. Et ils disent que du coup, bah, effectivement, les gens craignent pour leur vie, que beaucoup d'entre eux essaient de fuir, que certains vont ailleurs, en Russie ou ailleurs, mais que c'est une solution provisoire et peu sûre, et que ces personnes ont donc besoin d'aide pour sortir de Tchétchénie, mais aussi de Russie le plus vite possible. Du coup, ils appellent les pays de l'Union européenne à leur accorder le droit d'asile dès que possible. Alors, comme on voit comment le droit d'asile est accordé ici, on a un peu peur pour eux, mais du coup, c'est un peu la demande de ces ONG. Et plus globalement, du coup, puisque dernièrement, là, c'est de Tchétchénie que sont venus ces témoignages d'arrestation et de violence. Mais on peut rappeler qu'ailleurs dans le monde, les violences LGBTI-phobes, elles sont également élevées, cautionnées ou institutionnalisées par les gouvernements, et parfois même par les populations. En Russie, comme on vient de le dire, en Tchétchénie, mais aussi en Turquie, au Tunisie, au Maroc, en Amérique latine, au Brésil et autres. Les exemples d'agressions, d'arrestations, de tortures, de meurtres s'accumulent et l'inquiétude est donc assez grande. Dans certains pays, l'homosexualité elle est punie encore par la peine de mort. Dans d'autres, elle est encore vue comme une maladie. On peut... Alors, désolé, c'est un peu la fête dans les studios. Je vais donc finir par dire que, donc, je disais que l'homosexualité, elle est encore punie par la peine de mort dans certains pays. Et pour rappeler aussi qu'en France, en 68, la France a adopté la classification de l'OMS qui classait l'homosexualité dans les maladies mentales et qu'il a fallu attendre 1980 pour que l'homosexualité figure plus dans les listes de maladies mentales. Et donc, on voit que c'est encore source de stigmatisation et de discrimination un peu partout. Et donc, en France, les revendications, c'est le tract de ACT UP qui appelle à un rassemblement vendredi prochain, le 21 avril, à 18h, place de l'Hôtel de Ville, puisqu'ils disent que, plus encore que le terme bilan du quinquennat, au regard des insatisfactions qui subsistent sur les fronts de la PMA, de la déjudiciarisation du changement d'état civil, de la fin des mutilations des enfants intersexes, de meilleur accueil des demandeurs d'asile LGBT et autres. Ce sont aussi les perspectives qu'ont ouvert la campagne électorale qui sont toujours autant inquiétantes et face auxquelles il est urgent de s'organiser. Donc ils appellent, comme je viens de le dire, à un rassemblement le 21 avril à 18h à l'Hôtel de Ville à Paris pour dénoncer les violences et pour montrer la solidarité internationale. Et ça c'est en amont parce qu'ensuite le 17 mai c'est la journée internationale de lutte contre les LGBTI-phobies. Et de nouveau, ça sera le moment de montrer la solidarité et de dénoncer les violences subies par ces personnes.
Très bien. Et maintenant, on va en Guyane, où du coup, il y a du grabuge depuis la fin mars. On en avait déjà parlé un petit peu fin mars, au début, puisque depuis le 27 mars, les Guyanais ont lancé une grève générale illimitée qui a empêché le décollage de la fusée Ariane. Et ils se sont engagés dans un mouvement très déterminé pour dénoncer l'insécurité, le manque d'investissement et l'état délabré de leurs services publics, dont les hôpitaux, les écoles. Ils dénoncent aussi un taux de chômage deux fois plus élevé qu'en métropole, ce qui a atteint 55% pour les jeunes et 44% de taux de pauvreté. La France a fait de la base de Kourou une vitrine scientifique spatiale de renommée mondiale, mais une grande partie des Guyanais estime que les retombées économiques et sociales pour la population de ce territoire sont complètement insuffisantes. En effet, il y a vraiment une fracture territoriale qui est manifeste, puisqu'il y a 180 millions d'euros que Paris verse par an au Centre spatial guyanais, soit 76% du budget spatial européen. Et voilà, on voit un gros retard de ce département sur ce qui concerne l'éducation, la santé, les infrastructures publiques, le foncier, le social, l'agriculture et l'accès aux institutions publiques et donc aux droits en général. Il y avait eu déjà un rapport qui était alarmant du défenseur des droits sur tout ce qui était les instances publiques. Donc il mettait en avant ce rapport la nécessité d'un nouveau maillage sanitaire pour qu'il y ait l'accès aux soins, notamment pour les peuples autochtones amérindiens qui sont vraiment loin de l'accès aux droits sociaux, et la nécessité d'une école accessible aussi. Voilà, donc le mouvement social actuel, c'est vraiment face à l'attitude de l'État français qu'ils ont des revendications. Il y a une situation qui est vraiment critique. Les élus, il y a 13 des 22 maires qui ont rendu leur écharpe tricolore symboliquement, car ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas traités comme des Français à part entière. Ils demandent des investissements publics d'urgence à hauteur de 2,5 milliards et estiment que les propositions qui ont été faites par la ministre des Outre-mer et du ministre de l'Intérieur, qui sont de donner 1 milliard, ils estiment que c'est insuffisant parce que pour le moment c'est que des promesses et en plus ce serait étalé sur 5 à 10 ans. Voilà, donc moi je voudrais juste rappeler que ce traitement inégal, il est dû au racisme structurel dont sont victimes les peuples des territoires d'outre-mer. Ces territoires sont les dernières colonies de la France. La situation actuelle est la conséquence du génocide des Amérindiens, de la traite négrière transatlantique et du colonialisme. Comme la précédente mobilisation qui avait eu en Guadeloupe en 2009, qui avait eu aussi en Martinique et aussi en Guyane, c'est tout le passif, pour rappel, la Guyane, c'est une possession coloniale française depuis le XVIIe siècle. Donc c'est tout ce passif qui doit faire l'objet de réparations. Et la dette coloniale de la France envers la Guyane, comme envers toutes les colonies, est une affaire de justice. Donc voilà, le plan d'urgence de 3 milliards exigé par le peuple guyanais n'est qu'une faible partie du remboursement par l'État français de cette dette. Et voilà, c'est pour ça que du coup, la mobilisation continue à s'organiser contre cette politique de nature coloniale qui est encore en vigueur sur ce territoire. Puisque là, pour le moment, la République française s'intéresse qu'à l'or et qu'il y a en Guyane et au centre spatial à Kourou. Et voilà, et très peu au chômage, à la pauvreté, à la cherté de la vie, à la criminalité qui rendent la vie là-bas complètement insupportable. Donc voilà, pour le moment, il y a de nombreux collectifs auto-organisés qui continuent la mobilisation.
Et on fait un petit peu de teasing parce qu'on est très fort pour ça avec Canu Info et on vous annonce qu'a priori, la semaine prochaine, on aura quelqu'un en direct pour venir nous parler de la Guyane.
Bravo. Et donc pour finir cette rubrique internationale, on va en Argentine. On a dû vous en parler plusieurs fois déjà dans dans les Canu Info. Mais là, j'ai trouvé un texte dans le dernier journal du planning familial de Villeurbanne qui s'appelle Débat féministe, qui reprend un peu depuis le 2015 tout ce qui se passe, enfin toutes les féminicides qui ont eu lieu en Argentine et que je trouvais assez clair. Du coup, je vous lis. En 2015, après la découverte du corps dénudé de Dayana Garcia dans un sac poubelle, un collectif... Vous m'entendez ? Bon, désolé, je change de micro, je recommence. En 2015, après la découverte du corps dénudé de Dayana Garcia dans un sac poubelle, un collectif d'écrivaines, artistes, journalistes et activistes baptisé Ni Una Menos, pas une de moins, en référence à un poème de la Mexicaine Susana Chavez, organise un marathon de lecture à Buenos Aires pour dénoncer les féminicides. À peine deux mois plus tard, le meurtre de Chiara Paez suscite de nouveau l'indignation. La jeune fille de 14 ans, enceinte, a été assassinée par son petit ami. Le 3 juin, près de 300 000 Argentins et Argentines descendent dans la rue pour dénoncer les crimes machistes. Depuis 2015, dans la rue, sur les réseaux sociaux, au travail, dans les universités et les quartiers, le féminisme argentin est sur tous les fronts. Une vitalité d'autant plus impressionnante qu'elle se conjugue avec une incroyable jeunesse. Le féminisme s'est revitalisé grâce au mouvement lesbien et trans, et spécialement grâce aux jeunes, des filles qui incarnent un féminisme réel, cru, très puissant et très rebelle, analyse Luciana Pecker, journaliste spécialiste des questions de genre, qui vient de publier « La révolution des femmes ». Ni Una Menos devient un cri de ralliement dans tout le pays et se propage au Chili, en Uruguay et dans le reste de l'Amérique latine. Des revendications jusqu'alors ignorées s'imposent sur le devant de la scène, ralliant beaucoup de femmes qui jusqu'alors ne se sentaient pas concernées par le féminisme. Le mouvement ne cesse de grandir et deux autres marches massives suivent. Le 19 octobre 2016, des centaines de milliers de femmes font une grève d'une heure, s'inspirant directement de l'exemple des féministes en Pologne. Puis, à nouveau, le 25 novembre 2016, pour la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. En Argentine, le mouvement est aussi porté par l'urgence, dans un pays où le machisme tue chaque jour. Les modes d'action changent et la cruauté augmente. Certaines victimes sont brûlées, plusieurs jeunes filles ont été empalées à mort. Les corps des victimes sont jetés, tels des ordures, dans des terrains vagues. En 2016, une femme était assassinée toutes les 30 heures, selon l'Observatoire des féminicides dirigé par l'association La Casa del Encuentro. Rien que pour les 43 premiers jours de 2017, l'Institut des politiques de genre Wanda Tadei dénombre 57 féminicides, soit une femme tuée toutes les 18 heures. Les revendications des féministes s'élargissent notamment à la question de l'avortement. Toujours illégal, celui-ci n'est autorisé qu'en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère. Au départ, la revendication a divisé le mouvement Ni Una Menos entre les courants qui souhaitaient se concentrer sur les revendications contre les violences et ceux qui voulaient aussi s'inscrire dans la lutte pour la légalisation de l'avortement. Lors de la seconde marche de Ni Una Menos, le 19 octobre 2016, la légalisation de l'avortement a été revendiquée.
La campagne pour un avortement légal, sûr et gratuit, menée par plusieurs organisations féministes, a également pris un nouvel élan lors de la Rencontre nationale des femmes de 2016, où plus de 70 000 personnes ont défilé en arborant le foulard vert au mets de l'inscription « Aborto légal ». Depuis l'émergence de Ni Una Menos, le nombre de participants à ces rencontres nationales de femmes a pratiquement doublé. Peu connu, un rassemblement de femmes a lieu chaque année depuis plus de 30 ans dans une province différente de l'Argentine. Durant un week-end, des dizaines de milliers de femmes de tout le pays et de toutes les classes sociales se retrouvent pour échanger sur des thèmes économiques, sociaux et politiques qui les concernent. Elles étaient 100 000 à Rosario, dans le centre du pays, lors du dernier rassemblement en octobre 2016. Malgré quelques avancées, comme la récente création d'un registre officiel des féminicides, le chemin est encore long, d'autant plus que le nombre de féminicides continue d'augmenter. Mais le mouvement féministe s'amplifie, lui aussi, de plus en plus.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, et pour une fois au Canu Info, il est 19h56 et nous commençons l'agenda. Et on va commencer par ce qui se passe demain. Et demain, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe le grand banquet des ingouvernables. Du coup, samedi 15 avril, au Rafio, à partir de 12h, ramène tes potes, tes plats cuisinés et tes envies de t'organiser. Une centaine de palettes se volatilisent dans une zone commerciale des environs de Lyon. Des victuailles apparaissent par miracle d'une association de malfaiteurs. Ici et là, on se rejoint pour mettre en commun des recettes un peu folles. Dans la rumeur des visseuses, des bricoleurs en herbe enchevêtrent des palettes et planches en bois pour monter des tables en kit. Ce qui se prépare, un banquet de retrouvailles. Un radeau géant pour partir à l'aventure ou encore un moment de joie et de magie commune. Alors, ce banquet, c'est d'abord une proposition de mise en commun à grande échelle de tout ce qui nous habite en ce moment. Un temps où on puisse éprouver en un même lieu cette texture et cette aventure collective qui se construit en plein endroit de la ville. Pour approvisionner cette tablée, le plein de mystères, des fourneaux allumés, des étals de grands magasins à dépouiller, des bonnes bouteilles à repêcher, des complicités paysannes à activer. Pour ça, nous invitons, enfin quand je dis nous, c'est du coup les ingouvernables, chacune des personnes ou des groupes intéressés à prendre très au sérieux cette invitation en préparant un petit quelque chose à partager. Texte renversant, entremets esquis, alcool frelaté, discours porteur de fièvre et de folie communicatrice, prochain rendez-vous ou toute autre proposition conspirative. Des chansons, des cris de guerre, des formules magiques, avec au bout, au moins, des petites percelles de perception et d'ambiance commune. Devenir ingouvernable, vivre à plein, foutre des grains de sable dans leur machine. Dans la suite de ce banquet, on aimerait proposer différents ateliers, groupes de travail pour commencer à se poser ensemble la question de l'autonomie et de comment se doter à court et à long terme d'outils communs à Lyon, comme un journal, une radio. Bon, bah, la radio, on sait déjà. Hein. Continue ou sans. Nous invitons donc toutes les personnes à se joindre à ces groupes et à commencer dès maintenant à réfléchir à une ou plusieurs de ces thématiques. Et donc, si vous avez des questions, par exemple, où est-ce que c'est le Rafio, qui c'est un peu Lyon ingouvernable, n'hésitez pas à écrire à Lyon ingouvernable au singulier @riseup.net. Notamment, ou aller lire cet article en entier sur le site rebellion.info.
Mais si demain vous n'avez pas faim, vous pouvez aussi aller inventer le futur. Comment on invente le futur ? Eh bien, avec un atelier d'écriture qui est organisé par Piraton 2017. Ça se passe où ? Ça se passe à la MJC de Montplaisir. J'ai menti, c'est pas du tout la MJC de Montplaisir, c'est à la MJC Jean Massé, bien sûr. Et c'est à 14h. Et du coup, l'idée, bah voilà, quoi, c'est de faire un atelier d'écriture pour inventer de nouveaux possibles pour le meilleur ou pour le pire.
Et ensuite, dans un futur très prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, il y aura des rencontres avec Lizzie Krovager le vendredi 21 avril, le samedi 22 avril. Donc